Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Quand on parle de sexualité, il est important d'y inclure toutes les dimensions. Nous ne vivons pas tous et toutes la sexualité de la même façon, et dans beaucoup de situations, cela demande des ajustements constants. Comme par exemple les personnes vivant avec une maladie et des douleurs chroniques. Je reçois Charlotte Tourmente pour discuter de tout ça. Charlotte, elle est sur tous les fronts. Elle est sexologue clinicienne et travaille également comme médecin et journaliste pour deux sites internet. Elle est l'heureuse vice-présidente de l'association Dare Woman et présidente de l'entité Dare Woman Handicap. Ayant une sclérose en plaques depuis 25 ans, elle s'est intéressée à la séduction et à la sexualité lorsque l'on présente des limites physiques en lien avec une maladie, un handicap ou même le vieillissement. Comment accepter un corps qui nous lâche? Comment se réconcilier avec lui? Elle a fait de nombreuses rencontres qui lui ont montré que l'une des voies possibles passe par réinventer sa sexualité en se libérant de ses croyances auto-limitantes ainsi que des injonctions et des codes de la société. Les conseils et les soutiens d'une sexologue et d'un sexologue sont parfois d'une grande aide pour le faire, avec à la clé une sexualité qui, si elle est différente, n'en est pas forcément moins bonne. Charlotte, merci de ta présence et bienvenue.
Bonjour Camille, merci à toi de t'intéresser à ce sujet dont on ne parle pas assez, et en effet il est possible de réinventer sa sexualité, et heureusement.
Ah bah chouette, tu vas nous raconter tout ça alors. Donc toi, tu as une sclérose en plaques qui fait partie maintenant de ta vie depuis presque deux décennies. Elle t'a demandé de constants ajustements, que ce soit dans ta vie quotidienne, mais aussi du coup dans l'intimité. Hein. Peux-tu nous dire comment une maladie inflammatoire comme la sclérose en plaques peut impacter la sexualité?
Alors elle peut l'impacter de différentes façons. Moi j'ai eu de la chance dans le sens où je n'ai pas eu de troubles sexuels, mais c'est vrai que c'est une maladie qui fonctionne par crise dans sa forme la plus fréquente. Et quand on est en crise, on est crevé, on peut avoir très mal, plein de symptômes, et on n'a pas forcément la tête aux galipettes. Mais on va schématiser en disant que la sclérose en plaques, ça peut perturber la sexualité, soit du fait de la maladie proprement dite et des lésions, soit du fait des symptômes qui compliquent le déroulement de la maladie. Je pense aux douleurs, aux fuites urinaires ou aux troubles urinaires qui peuvent aussi perturber le déroulement des rapports. Ça peut être aussi en lien, et ça c'est très fréquent, facteur psychologique. que ce soit la sclérose en plaques ou une maladie chronique, un handicap, il va y avoir plus d'anxiété et de dépression, c'est connu, il va y avoir le choc du diagnostic. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent perturber la sexualité et sur lesquels on peut agir. Et la quatrième possibilité, ce sont les effets secondaires des médicaments, puisqu'on on le sait, certains effets secondaires touchent la sexualité.
Et est-ce que ça impacte différemment par rapport à la sexualité qu'on soit un homme atteint de sclérose en plaques ou une femme ?
Oui, parce qu'en fait, chez les hommes, il va y avoir des dysfonctions érectiles, donc un trouble de l'érection. Avec, entre guillemets, une chance, c'est que c'est le trouble sexuel où il y a le plus de traitements possibles. Donc, il y a quand même un moyen de garder ses capacités d'érection. Il y a un trouble de l'éjaculation, peut être retardé. Chez les femmes, une sécheresse vaginale est fréquente, des douleurs à la pénétration. Chez les deux, il peut aussi y avoir une baisse de libido ou une atteinte de l'orgasme.
Et donc pour toi, ça te semble, et je le disais dans l'intro, quelque chose d'important ou d'essentiel ou de bien pour sa sexualité, de pouvoir consulter justement une sexologue dans ce moment-là déjà. Alors peut-être pas quand on a le diagnostic posé, mais quand on se rend compte finalement qu'on a une maladie chronique et que ça impacte sa vie intime.
Oui, ça me semble fondamental de pouvoir parler à un sexologue, tout simplement parce que ce sont des troubles très intimes, on n'ose pas forcément les aborder avec son spécialiste. Je sais que dans le domaine de la sclérose en plaques, les neurologues n'abordaient pas du tout ce sujet. Ils le font un peu plus aujourd'hui et surtout, il y a des consultations de sexologie qui se développent dans les hôpitaux et qui sont associées aux services de neurologie. Donc, et c'est important parce que la santé sexuelle, et on le sait, et même l'Organisation mondiale de la santé l'inclut dans le concept de santé, elle est fondamentale, d'autant plus que la sclérose en plaques touche des adultes jeunes, le plus souvent entre 20 et 40 ans, et que oui, c'est encore plus important à cet âge-là qu'à 70 ou 80 ans.
Pour avoir déjà dès le début aussi, comme tu dis, ça impacte jeune, mais aussi d'avoir les ressources, les outils nécessaires le plus tôt possible pour éviter peut-être des années de souffrance et de croyances aussi qui vont s'installer par rapport à cette maladie et la sexualité.
En effet, parce qu'on le sait, quand il y a un trouble sexuel dont on ne va pas parler ou pour lequel on ne va pas avoir de prise en charge, il va y avoir une sorte de cercle vicieux entre le trouble, les répercussions sur la sexualité, sur le couple, des non-dits, des malentendus. Et plus on attend, en fait, plus ça s'enquiste et plus ça peut être compliqué d'interagir. Maintenant, quelle que soit la durée du trouble sexuel, c'est important d'en parler parce qu'il y a toujours des ajustements à faire et il y a toujours une prise en charge à proposer, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut retenir.
Ok, ouais, prise en charge et ajustement, et on reviendra aussi sur les ajustements parce que je pense que les personnes qui sont concernées se demandent qu'est-ce qu'il y a de possible. Mais je voulais revenir aussi sur justement ces croyances auto-limitantes que l'on peut avoir autour de la sexualité quand on souffre d'une maladie. Quelles peuvent être ces croyances et quel peut être l'impact de ces croyances justement ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances qui sont limitantes et la première, ça va être que la sexualité va être forcément impacté par la maladie. Si on va sur un site sclérose en plaques ou autre, on va lire l'un des symptômes, trouble sexuel. Et c'est extrêmement angoissant, en fait, de lire ça. Même quand on n'a pas de trouble sexuel, on se dit « Ah, mais oui, c'est possible. » On l'a dans la tête et rien que ça, ça peut perturber ça. Et il y a une autre croyance auto-limitante qui est extrêmement fréquente, c'est de penser que à partir du moment où on a une maladie chronique ou un handicap, on n'est plus désirable. On ne peut plus susciter le désir des autres, on n'est plus aimable au sens premier du terme, capable d'être aimé. Et ça, il faut vraiment travailler sur soi, alors soit seul avec des livres de développement personnel, soit avec l'aide d'un spécialiste, un sexologue clinicien par exemple, ou un psychologue, pour pouvoir se dire, si, c'est pas parce que j'ai une maladie chronique ou un handicap que je ne suis plus désirable, je ne suis plus aimé. Mais il faut, reparamétrer dans sa tête. Parce que la maladie chronique, elle provoque très souvent manque de confiance, baisse d'estime de soi, changement de l'image de soi. Et c'est pour ça que c'est important d'échanger là-dessus, parce que c'est vraiment des choses qu'on observe énormément en consultation ou même dans la vie de tous les jours. Et puis enfin, il y a les pensées négatives qu'on peut avoir et qui peuvent tourner en boucle, comme est-ce que je vais réussir à avoir une érection ? Est-ce que je vais être excitée rapidement ? Est-ce que je vais atteindre l'orgasme ? Et ces pensées, elles vont couper des sensations corporelles donc de l'excitation sexuelle, et perturber le déroulement du rapport sexuel et la qualité de vie sexuelle. Donc c'est très important en fait de travailler sur ces pensées auto-limitantes.
Ouais, de travailler là-dessus et puis de permettre aussi d'être dans le moment présent, parce que tu parlais justement de ces croyances qui court-circuitent un petit peu du coup ce qu'on peut ressentir. Et d'ailleurs, dans ton livre, qui s'intitule « Sclérose en plaques et talons aiguilles, dépasser la maladie et renouer avec son équilibre », il y a une alors c'est pas une phrase, mais c'est quelque chose que tu dis, et j'aimerais qu'on détaille un petit peu. Tu dis que justement, la maladie, c'est un excellent moyen de se reconnecter à son corps. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ?
Tout à fait. Alors pour moi, en fait, j'ai une forme de sclérose en plaques qui ne provoque, entre guillemets, que des symptômes invisibles. Vous me croisez dans la rue, elle a l'air en pleine forme, elle s'en sort hyper bien. Et c'est vrai que j'ai énormément d'épuisement, de douleur, donc des sensations très négatives. Et pour compenser ces sensations très négatives, je me suis dit, la des solutions va résider dans la psychologie positive, et donc dans le fait de me connecter sur tout mes petits plaisirs, toutes les sensations positives, agréables que mon corps peut encore me donner. Et je vais presque dire, quel que soit le handicap, il y a des moments positifs, il y a des sensations positives. Faut réussir à se reconnecter à ces moments-là et à les savourer, mais au centuple. Et moi, j'ai parfois l'impression que oui, en effet, je profite tellement plus de la vie et des moments où ça va bien que les gens sans handicap, qui me le disent, d'ailleurs, moi, c'est vrai que mes amis constatent, bah oui, toi, tu sais profiter de ces instants-là. Et ils donnent de la force pour les mauvais moments.
Oui, c'est ça, parce que tu sais que ces moments-là, tu sais que tu les vis pleinement, parce que tu sais qu'il y a des moments plus down qui vont t'impacter. Et donc, tu savoures encore plus ces phases où tu te sens bien, justement, et que tu peux vraiment profiter. Donc, je comprends ce lien, effectivement, vraiment en plus d'accentuer, de se focaliser sur le positif quand il est là, de pouvoir voir le verre à moitié plein, ce qui, je pense, aussi peut te nourrir, peut nourrir les gens aussi quand il y a des moments un peu plus down, de s'accrocher à quelque chose en disant c'est une phase, c'est un passage et ça va mieux aller.
Exactement. Et le souvenir, en fait, de tous ces moments et sensations positives, dans les moments où on ne va pas bien, c'est aussi un moteur en se disant « Non, je vais me battre pour que ça aille mieux et que je puisse en revivre. » Et quand j'ai eu une hémiplégie il y a 11 ans, 12 ans, c'est vrai que, moi, mon objectif numéro un, c'était de renager dans la mer. Et ça, c'est la sensation où je me sens libre, où j'ai plus de douleur, où mon corps est moins contraint par la maladie. Et ça, c'était dans ma tête. Tous les soirs, je m'endormais avec le son de la mer grâce à une appli. Donc, je crois que tous ces moments-là, ils peuvent en effet servir de moteur incroyable. Et que c'est important de savoir quels sont, soit ces moteurs, de s'interroger là-dessus pour pouvoir avancer.
Et toi, en consultation, d'ailleurs, est-ce que tu reçois, est-ce que ta patientèle, c'est une majorité de personnes, justement, avec des douleurs chroniques ? Pas forcément. Et si c'est avec des douleurs chroniques, comment tu les accompagnes ?
Non, alors, en fait, c'est pas, trois quarts sans maladie, sans handicap, et un quart avec maladie et handicap, en sachant que parfois, il n'y a pas de maladie chronique, mais que c'est parfois plus compliqué de travailler. Et en fait, finalement, les patients qui ont une maladie, un handicap, alors il y a les douleurs, mais c'est vrai qu'en douleur chronique, depuis 25 ans, moi, j'ai l'habitude de la façon de les prendre en charge, et surtout, je les comprends. Je les comprends dans mon corps, dans ma chair, donc je pense que j'ai une écoute qui est différente et des conseils qui sont probablement plus adaptés. Et plus globalement, pour le handicap, je suis moi-même passée par différentes phases et j'essaye d'accompagner les patients dans ces différentes phases pour leur faire gagner du temps, en fait, et gagner en qualité de vie.
Oui, parce que c'est ça aussi, en fait. On peut faire des choses seules, mais c'est vrai que dans l'accompagnement, c'est effectivement pour faire gagner du temps. Alors, ce n'est pas en disant on va aller plus vite, etc., mais c'est vraiment des outils, comme tu disais, tu es passé par là. Je pense que tu as une écoute, du coup, toute particulière et des outils encore plus adaptés qu'une personne comme moi, par exemple, qui ne souffre pas de douleurs chroniques ou de maladies et qui peut des fois être extérieure à tout ça. Toi, tu le comprends, comme tu disais, dans ta chair, dans ton vécu.
Oui. Après, j'ai pas d'outils magiques. Moi, je partage les outils déjà qui sont dont les effets sont prouvés par la science, évidemment, je pense normalement, évidemment, aux douleurs durant la pénétration, mais il y a aussi des outils qui, pour moi, ont fonctionné sur moi, c'est la méditation en pleine conscience pour se centrer sur ses sensations, la psychologie positive, c'est le fait de se faire du bien et de se réconcilier, en fait, avec tous les plaisirs au sens large et de commencer parfois par là avant d'en arriver au plaisir sexuel pour étendre sa palette finalement de plaisir. Et puis après, on adapte évidemment à chaque cas et en fonction de chaque vécu et chaque tempérament, parce que tout le monde ne répond pas aux mêmes conseils.
Oui, et c'est vrai, la pleine conscience, j'en parle justement dans l'épisode 4 du moment présent pleine conscience, parce que c'est un outil formidable en fait, vraiment exceptionnel pour se focaliser, comme tu disais déjà, sur quelque chose qui nous fait du bien. Là, toi par exemple, c'était ton moteur d'aller nager, et c'était ton focus chaque soir, et c'est ce qui fait tenir aussi, et c'est ce qui fait profiter, donne une saveur différente aussi à la vie, j'imagine. Et donc, tu disais que, voilà, il y a 25 ans, quand t'as, voilà, mis le diagnostic de sclérose en plaques, les médecins ne parlaient pas forcément de la sexualité. Peut-être souvent aussi, ce qu'on entend, c'est « bon, la personne, elle doit déjà gérer cette maladie, on ne va pas non plus rajouter la sexualité, ça passe un petit peu au second plan ». Or, tu disais que pour certaines personnes, ça les impacte et que… Aussi, se sentir bien dans sa sexualité, ça permet aussi de se sentir bien aussi dans sa maladie. Mais en même temps, comment être dans la séduction parce que j'en parlais en intro, que toi, voilà, tu t'es vraiment intéressée à ça. Comment on peut être dans la séduction quand on présente justement des limites physiques liées à sa maladie?
Alors, ça peut être différent en fonction du handicap, s'il est visible ou invisible. Entre guillemets, pour moi, où il est invisible, ça peut sembler plus facile parce qu'entre guillemets, je réponds aux normes sociétale, il n'y a pas de différence visible. Après, c'est vrai que j'ai un mode de vie qui est différent du fait des douleurs, de l'épuisement. Donc, moi, ce qui vraiment m'a aidé et ce qui est à mettre en place aussi en cas de handicap visible, ça va être de surtout prendre conscience déjà des normes qui sont imposées par la société, qui sont nombreuses, mais qui sont encore plus marquées en fait avec le handicap parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Et ça, rien que ça, ça provoque une souffrance, ça provoque le sentiment de ne pas être adapté. Moi, au départ, j'ai mis 5 ans à me convaincre que oui, j'étais aimable, oui, j'étais séduisante, mais je crois que j'avais trop de choses à gérer avant. J'étais en pleine étude médicale, j'avais à gérer un diagnostic très compliqué. Donc, il y a des moments aussi où on n'est pas capable, entre guillemets, de s'intéresser à la séduction, de la sexualité, c'est les débuts de maladie ou de handicap, c'est quand il y a de nouvelles limites physiques qui se mettent en place. Et là, voilà, je crois qu'à un moment, il faut prioriser et en disant, je dois retrouver un équilibre avant de m'intéresser et de m'investir dans la séduction et la sexualité. Donc, il faudra faire ce travail de normes imposées, de prise de conscience, en tout cas des normes. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est de travailler sur soi pour pas s'enfermer dans ces normes et travailler sur un concept de féminité ou de virilité, le remettre en cause, le remettre en question pour pouvoir s'en extraire. Parce que ces normes, finalement, elles questionnent, elles interrogent. D'une part, elles sont superficielles, elles sont hyper cadrées, elles sont souvent très centrées sur l'apparence physique, mais la majorité des gens, ils ne sont pas attirés par une plastique de mannequin. Ils vont être attirés par ce que la personne dégage, ses valeurs, son humour. Et je pense que avoir cette vision globale, qui est très difficile, quand on a un handicap ou on se sent rejeté parfois, avoir cette vision globale, ça me paraît extrêmement essentiel. Et ensuite, ça va être évidemment de se centrer sur ses atouts, sur toutes ses qualités, tout ce qu'on a envie de mettre en valeur, tout ce qui nous distingue aussi des autres, qui nous donne une profondeur différente. Et puis parfois, certains arrivent même à faire de leur différence une force et un atout.
Ouais. Mais j'entends qu'il y a vraiment aussi une phase, une notion d'acceptation qui revient beaucoup dans ce que tu dis et dans ton livre. Mais c'est vrai que même en consultation, même là, en t'écoutant, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est extrêmement frustrant en fait de ne plus pouvoir faire sexuellement les mêmes choses qu'avant ou de moins ressentir ou d'être focalisé sur le mois d'avant et d'essayer de revenir à ça, et c'est extrêmement dur cette notion d'acceptation. Je sais pas ce que tu en penses.
Ah, c'est extrêmement frustrant, c'est douloureux. Ça peut entraîner une foule d'émotions négatives, de la colère, de la tristesse, un sentiment d'injustice aussi. On le sait que la vie n'est pas juste, mais quand on y est confronté, soit on le prend plein fouet. Et je crois qu'il va falloir déjà vivre avec ces émotions, les intégrer, presque les accepter, pour trouver une façon de composer avec elles et ensuite de se dire, de réussir à se dire, ok. Il y a tout ça qui est en jeu, c'est pas juste, c'est frustrant, c'est angoissant, mais ma sexualité, elle ne sera plus ce qu'elle était avant. Et il y a une sorte de deuil, qui est deuil de sa sexualité d'avant, qui implique souvent un deuil de sa vie d'avant. Donc, ça peut prendre du temps. Il faut parfois se faire accompagner pour réussir à faire ça, parce que c'est extrêmement douloureux,
c'est dur.
Quand on est jeune. Mais c'est faisable. Mais c'est faisable, et ce n'est pas parce que on doit faire différemment, que ce sera moins bon, moins fort. L'être humain, il a une capacité d'adaptation mais phénoménale, une résilience, et y compris dans sa sexualité. Et ça peut permettre aussi de développer une connexion à l'autre beaucoup plus forte, une intimité encore plus forte du fait de la maladie. Moi, je connais beaucoup de couples où l'un des deux a une maladie, et sont souvent des couples extrêmement soudés, ça, et qui ont réussi à faire à deux des choses différemment.
Ouais, c'est vraiment important de souligner ça, que finalement, en plus, ils ont, comme tu dis, ces couples-là qui sont soudés, donc, justement, face à la maladie, mais ont aussi souvent des ressources vraiment fantastiques par rapport à cette réinvention de la sexualité, même de penser la sexualité différemment. Ils ont des fois même une sensualité que d'autres couples n'ont pas forcément. Donc, ils ont des ressources, en fait, qu'ils peuvent trouver justement en faisant face aussi à cette difficulté-là, ensemble.
Tout à fait. Quand on est en couple, évidemment, la sexualité, elle s'invente à deux. Mais du fait d'un handicap, elle peut aussi permettre de découvrir d'autres choses. Alors oui, ça peut être contraignant, parce que si c'est des limites au niveau de faiblesse musculaire et de paralysie, il va falloir se caler dans des coussins, Mais ça va. Ou si en cas de difficulté de trouble de l'érection, certains vont pas avoir envie de prendre un comprimé toujours avant les rapports, ça peut permettre de découvrir la sexualité non pénétrative, de découvrir l'érotisme, ce qui est un travail que notamment les hommes font souvent plus tard, quand les troubles de l'érection commencent à rentrer dans leur sexualité. Et là, ceux qui découvrent la sexualité non pénétrative, c'est vrai que souvent, il y a une gamme de sensations, de sensualité énorme. Et c'est une découverte pour le couple qui est exceptionnelle. Donc ça, je crois qu'il ne faut vraiment pas… Il faut se dire, oui, on fait différemment, mais oui, ça peut nous faire découvrir autre chose. Le slow sex, par exemple. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a encore cette notion de connexion à l'autre qui est encore plus forte. Et je ne veux pas oublier les célibataires. Parce que c'est vrai que on n'est pas forcément en couple, et quand on n'est pas en couple, on peut se dire mais ça va être d'une galère sans nom, avec une maladie chronique ou un handicap. Alors ça peut l'être effectivement, mais il faut le voir vraiment comme un critère de sélection et fonctionner en termes de valeur. Si l'autre n'est pas capable de s'adapter, et je crois que c'est un critère de sélection supplémentaire et next. Et c'est pas pour ça qu'il faut se couper du plaisir sexuel. Les sex friends, ça existe, la masturbation aussi, et ça peut être un travail de réconciliation avec son corps, parce que en prenant conscience de tous les plaisirs que peuvent offrir la sexualité, et ça, c'est extrêmement fort et important.
Oui, tu parlais des personnes célibataires et tu disais que c'est un critère de sélection, et c'est ce que j'aime beaucoup dire aussi, mais souvent la remarque c'est « oui, mais du coup si c'est ça, je vais trouver personne et je vais faire vraiment très très peu de rencontres ». Qu'est-ce que tu réponds
Alors,
à ça ?
Qu'est-ce que je réponds à ça ? Ça peut être plus dur ou un peu plus long. Quoique, parce que moi, j'ai des tonnes d'exemples en fait pratiques de personnes qui maladies chroniques ou handicap, qui n'ont jamais été célibataires ou presque, qui arrivent toujours à retrouver. Parfois, on est célibataire, mais c'est pas tant parce qu'on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui pourrait s'adapter, que parce qu'on n'est pas prêt dans sa tête ou on n'a pas forcément envie, finalement, inconsciemment, d'être en couple. Donc, il y a plein de variantes différentes, et c'est bien de s'interroger aussi sur ce qu'on veut.
Ok, donc il y a d'autres enjeux de pas forcément aussi mettre tout ça, comme tu dis, peut-être sur la maladie et de se dire bah, c'est parce que c'est à cause de ça. Finalement, c'est aussi de se questionner, de se remettre en question aussi, bien au-delà. On n'est pas qu'une maladie, on est aussi tout un ensemble en fait.
Tu me permets d'ajouter, c'est essentiel de pas se voir que comme un patient, comme un malade. Moi, j'ai toujours dit, je suis une femme avant d'être une patiente et vous m'enlèverez jamais ça. Et je m'habille le matin en me disant bah voilà, je suis féminine et moi c'est mon tuteur. Chacun son moteur, mais c'est vrai que voilà, que les gens te disent maintenant je suis pas qu'un handicap, je suis tellement plus que ça, et heureusement.
Et comme tu disais au tout début, c'est un handicap invisible, et c'est vrai qu'on te voit, si tu nous le dis pas, on a aucune façon de savoir que tu vis tout ça. Et moi, vraiment, je l'ai encore plus appris et senti en lisant ton livre où tu racontes vraiment tout ton vécu. Là, j'ai fait « Waouh !» Je découvre une Charlotte complètement pas différente parce que ça ne fait pas que ça, mais de me dire « Waouh !» tout ce que tu as vécu. Et donc, c'était intéressant de lire ça. Et d'ailleurs, dans ce livre aussi, tu parles que la sexualité s'adapte au corps. Et je trouvais ça très chouette à entendre, parce que comme tu disais, où les personnes se disent bah ça y est, ma sexualité elle est foutue parce que j'ai plus ce même corps ou j'ai plus ces mêmes sensations. Or tu dis que la sexualité s'adapte à notre corps. Est-ce que tu peux en dire plus?
Bien sûr, je crois que alors c'est vrai que j'ai pas parlé des handicaps extrêmement sévères de tétraplégie, quoique, parce que c'est vrai que il y a l'accompagnement sexuel qui existe, qui un jour peut-être arrivera enfin en France, où nous sommes totalement retardataires. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, on peut trouver des façons de contourner les symptômes. Je donne un exemple, trouble urinaire, on a peur d'avoir des fuites, ou la douche, un bain, ça peut être quelque chose d'extrêmement érotique. Pour les fuites qui sont minimes, de toute façon, elles se mélangent dans les fluides corporels et on ne va pas voir grand-chose. Donc, il faut aussi se détendre là-dessus et réfléchir à comment on peut contourner. Et c'est là où c'est parfois intéressant d'avoir un sexologue parce qu'il peut savoir aussi comment contourner ces symptômes. C'est faisable. L'épuisement, on va réfléchir à quels sont les meilleurs moments. Comment faire, peut-être qu'il faut, les moments où on est épuisé, peut-être qu'il faut faire juste différemment. Un massage érotique, ou privilégier la tendresse ces fois-ci. En fait, il y a plein de petites choses, de petits ajustements, comme j'ai dit au début, à mettre en place. Et ça, c'est fondamental.
Ouais, donc des ajustements, et des fois, c'est des choses auxquelles les personnes n'y ont pas forcément pensé non plus, n'ont pas forcément eu la curiosité ou l'idée que ça leur vienne. Et c'est pour ça que des fois, un accompagnement, ça permet de donner des outils qui sont en plus personnalisés, comme tu disais, par rapport aux fuites urinaires, ou je ne sais pas si tu en as d'autres aussi, des ajustements. Alors, tu parlais de position aussi, ça peut être des ajustements de position.
Tout à fait. Par exemple, moi, je me souviens, j'avais une patiente qui était en fauteuil, et puis on me voit dans le cadre d'un événement et elle me dit, il faut quand même que j'en parle. Moi, je renonce à la sexualité parce que finalement, je peux pas me bouger, c'est plus comme avant. Et puis, je leur ai parlé à tous les deux en me disant, mais faites juste différemment. Toi, si t'es comment est-ce que tu peux être installée pour être bien? Elle me dit, si je mets des coussins, ça va. Si je suis dans telle position, ça va. Et en fait, la fois suivante, quand j'ai vu, elle m'a dit, ça y est, tu m'as juste donné le petit coup de pouce pour me dire que oui, il fallait faire différemment, mais que c'était tout à fait possible. Et elle resplendissait. Alors parfois, c'est plusieurs ajustements, c'est un peu plus compliqué, hein, bien sûr. Évidemment. Mais moi, je veux bien croire, enfin, je suis une grande optimiste, il y a toujours des solutions. Et pour les personnes qui sont beaucoup plus handicapées, il y a une sorte de planche pour les troubles moteurs un peu plus sévères, qui va aider à se mouvoir durant les rapports.
Alors, je peux peut-être c'est pas donner Andy, marque, je crois, si je
exactement Andy Lover. Alors le problème, c'est que ça a un coût, mais c'est vrai que ça peut vraiment aider à garder une sexualité. Donc c'est un des conseils importants, c'est soyez moteur et soyez proactif en fait dans la recherche de solutions, parce que très souvent on a tendance à rester bloqué sur ce qu'on faisait avant. Et en disant, non, si je ne peux plus faire ça, ça y est, c'est fini. Bah non. Il faut juste chercher la façon de faire pour que ce soit possible avec ses possibilités physiques.
Oui, on revient souvent sur cette notion de flexibilité, en fait, hein, et de manière générale dans la vie, et les personnes qui sont le plus satisfaites dans leur vie intime, et peu importe en fait la définition, ce qu'elles y mettent dans leur vie intime, peu importe la fréquence, c'est les personnes qui sont flexibles par rapport aux événements de vie, par rapport à ce qui se passe en fait finalement.
Ah, c'est totalement ça. C'est totalement ça parce que, en fait, tout le travail qui va être fait du fait, par exemple, d'une sclérose en plaques, d'une maladie chronique, il sera hyper intéressant pour le vieillissement. Donc, de toute façon, dans la vie, par définition, on doit être flexible, on doit être adaptable, et en tout cas, ceux qui arrivent à être flexibles sont souvent les plus heureux.
Oui, être adaptable parce qu'effectivement, tu fais le lien, voilà, handicap et ça peut aider pour après le vieillissement parce que dans le vieillissement, effectivement, notre corps change, nos organes génitaux aussi, les sensations peuvent être différentes, pas moins bien ou meilleures ou peu importe, c'est juste c'est différent. Et donc, plus on a cette flexibilité-là, cette ouverture, cette adaptation, plus on peut être satisfait de cette sexualité et moins se rigidifier par rapport à une expérience passée ou quelque chose passé. Encore une fois, où est-ce qu'on veut mettre notre attention ? Sur quelque chose de passé ou maintenant, aujourd'hui ?
C'est exactement ça. Il faut le voir en termes de ça va ouvrir la palette des possibles. Et ça, c'est hyper intéressant.
Et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais quand tu parles aussi avec tes patientes, et là, l'histoire de cette personne, de cette femme en fauteuil roulant. Souvent, j'ai l'impression qu'en fait, presque le premier déclic, c'est que tu leur donnes la permission d'être des personnes sexuelles.
Pour certaines, oui, parce qu'en fait, et d'ailleurs, c'est même, je pense à une autre patiente qui n'a pas de handicap et qui avait besoin, entre guillemets, de cette permission, ou en tout cas, de se voir dans le regard de quelqu'un d'autre comme quelqu'un de sexué et qui avait droit à une sexualité. Mais oui, en effet, parfois, c'est juste leur dire, oui, ok, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de symptômes, mais vous avez cette envie au fond de vous-même, cette flamme. Et la libido, c'est un élan de vie. Le sexe, c'est un élan de vie. On l'a tous en nous. Alors, il est parfois étouffé par certains événements de vie, qu'ils soient liés à la santé ou pas, mais on peut toujours le réactiver. Et c'est extrêmement important de ne pas faire une croix sur cette élan de vie, faire une croix sur sa sexualité, parce que c'est dans la très, très grande majorité des cas, à partir du moment où on a envie de retrouver l'envie, c'est possible.
C'est pour retrouver l'envie. Et c'est aussi tout à fait OK si il y a des phases où on n'a pas de sexualité, où on n'en a pas envie, ça peut aller et venir. Et c'est pas pour ça aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir une sexualité non plus si vous n'en avez pas envie. Hein, ça, on dit bien.
Tu as entièrement raison de l'ajouter. Et avec une sclérose en plaques, par exemple, il y a des moments où on est plus en forme avec moins de symptômes, d'autres où là on va être poussé à terre et ce sera pas possible. Sans maladie, il y a des moments où la libido est élevée, puis elle va baisser, elle va être très fluctuante et en fait on revient à la notion de flexibilité, savoir s'adapter à cette courbe très variable, c'est la vie en fait, c'est la vie.
Et quels sont les trois conseils que tu pourrais donner à une personne qui se retrouve du coup physiquement limitée dans sa sexualité, enfin physiquement, parce que voilà, il y a des handicaps ou ça peut être même en termes de sensations, et qui se dit que sa sexualité est foutue ou n'a plus de saveur, par où commencer ? Quels peuvent être les trois conseils ?
Les trois conseils, mais vous les retrouvez en fait tout au long du podcast, c'est d'apprendre de renoncer à faire comme avant, à avoir exactement la sexualité d'avant et réinventer en fait une sexualité. Donc ça veut dire apprendre à faire différemment, à découvrir des nouvelles formes de sexualité non pénétratives, faux sexe, massage érotique. Donc et surtout ne pas laisser tomber la tendresse qui est fondamentale pour l'être humain. Je crois que se renseigner, être proactif sur toutes les aides qu'on peut avoir, ça va du Kama Sutra des personnes handicapées, qui s'appelle le Parasutra ou Tetra Sutra, la planche Andy Lover, il y a même des sextoys qui se fixent à cette planche. Donc il y a quand même beaucoup, on a de la chance de vivre au 21e siècle, mais il y a beaucoup de palliatifs. Et certains voient les palliatifs comme une solution à minima, qui n'est pas satisfaisante. Et en fait, il faut bénir le ciel d'avoir la possibilité de faire différemment. Parce qu'il y a 5 siècles, ce n'était pas franchement le cas. Même le siècle dernier, ce n'était pas le cas. Et le troisième conseil, vraiment, ne pas hésiter à se faire aider par un sexologue, par un psychologue, parce que d'une part, pouvoir déposer tout ce qu'on ressent de négatif, toutes ces craintes, toutes ces questions, c'est extrêmement important. Avoir un soutien indéfectible, sans jugement, une écoute bienveillante, rien que ça, en fait, ça aide.
Ouais, c'est des précieux conseils et j'espère que les personnes pourront l'entendre et se dire que finalement, si jamais elles se retrouvent dans une situation un peu bloquée ou justement la sensation d'avoir besoin d'aide, de pouvoir, comme tu disais, faire appel à des professionnels. J'ai une dernière question pour toi, mais est-ce qu'avant, il y a quelque chose qui te semble important de partager, même si c'est déjà super riche ce que tu nous as partagé ?
Là, je pense qu'on a dit l'essentiel sur... Déjà, commencer par ça, et c'est un vaste programme.
Oui, c'est pas en une séance, déjà, c'est pas en un claquement de doigts, ce que tu as partagé, ça, c'est sur des années, des fois, on est d'accord.
Oui, ça peut... Alors, tout dépend des gens, ça peut être des semaines ou des mois, voire un suivi sur des années en fonction des moments, mais en tout cas, n'abandonnez pas.
Et alors, peut-être que c'est déjà une réponse que tu as dit dans tout cet épisode, mais si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité et ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait ?
Avec la sexualité, elle s'adapte tout au long de la vie, que ce soit en lien avec le handicap, le vieillissement, les expériences, les partenaires, et que l'être humain a une capacité d'adaptation incroyable, y compris dans la sexualité, et que c'est possible en fait de retrouver une sexualité qui fait du bien.
Qui fait du bien, j'adore, qui fait du bien. Oh. Et si les personnes du coup veulent te contacter, en savoir plus sur toi, te poser des questions, bref, rester en contact avec toi, où est-ce que ça peut se faire ?
Alors, je suis présente sur tous les réseaux sociaux et il y a mon site internet, Charlotte Tourmonde Sexologue. Tapez ça dans Google ou un autre moteur de recherche et vous tombez dessus.
Ah. Super. Ouais, je mettrai de toute façon toutes les informations en note de podcast. Aussi, peut-être le site de Dare Woman, parce que tu es quand même la vice-présidente.
Oui, oui. Alors, les femmes, que vous ayez un handicap ou pas, rejoignez-nous et vous trouverez une communauté bienveillante pour vous soutenir.
Ah, génial. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué un petit peu plus. Enfin, est-ce que tu veux justement prendre l'occasion, le micro, pour expliquer un petit peu ce que c'est Dare Woman ?
Alors, Dare Woman, c'est une association pour l'épanouissement professionnel des femmes, en partant du principe qu'elles n'osent pas forcément prendre la parole en public, en réunion, être aussi affirmées que les hommes. Et donc, on fait des ateliers pour développer les soft skills que sont la confiance en soi, la prise de parole, enfin, plein de choses. Et il y a quelques ateliers spécifiques plus en lien avec le handicap. C'est vraiment une association inclusive, donc tout est ouvert à tout le monde. On fait beaucoup de passerelles entre les différentes entités de l'association, mais voilà, on organise parfois des espaces de parole pour celles qui ont un handicap, pour déposer la parole qui est parfois un peu lourde, notamment dans le domaine de l'emploi, où il n'y a pas franchement d'égalité encore, et voilà. Mais en tout cas, c'est une communauté extrêmement bienveillante et positive, qui fait du bien, et aussi, il n'y a pas que la sexualité quand même, donc...
C'est bien de le rappeler aussi, d'être entouré, d'être dans un groupe aussi, entre femmes, de partager des vécus qui des fois peuvent être similaires ou différents, mais du coup enrichissants. C'est vraiment important, donc n'hésitez pas à rejoindre l'association. Charlotte, un très grand merci pour ton temps. Merci parce que voilà, je sais que c'est pas toujours évident, donc merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous partager tout ton savoir avec nous.
C'est un immense plaisir et merci beaucoup de t'y être intéressée surtout.
Super, merci beaucoup Charlotte, à bientôt.
Au revoir Camille.
J'enregistre ce dernier morceau avec mes AirPods, donc le son n'est pas le même que ce que vous avez l'habitude d'entendre, donc je m'excuse d'avance pour la qualité pas au top. Ça me semblait important de parler justement de sexualité avec une maladie, avec Charlotte, de parler de ce sujet-là, parce que comme elle le dit, on en parle peu. Tant nombre de personnes vivent avec des maladies, qu'elles soient visibles, invisibles, et des handicaps, qu'ils soient moteurs ou mentaux, et ça me semblait très important, encore une fois, d'en parler. Alors ici, on a principalement abordé la sclérose en plaques, des maladies avec des douleurs chroniques, mais c'est vrai que je suis intéressée aussi pour qu'on puisse parler de handicap physique et de sexualité, et de handicap mental et sexualité. C'est dans les projets et j'espère vous l'offrir très rapidement ces épisodes pour parler de toute cette diversité-là aussi. Vous pouvez aussi laisser dès à présent plusieurs étoiles, 5 de préférence, sur votre plateforme d'écoute pour que d'autres personnes puissent bénéficier justement de cet épisode. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à un ami, à votre voisine, à des patientes ou à des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite à tous et à toutes de belles expériences intimes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.